Bon midi, guys! Merci d'être à l'antenne de Boulevard 101. C'est tellement apprécié de vous savoir là. Hier à midi, ça a été un pic du jamais vu sur le streaming à l'émission On en jase. Alors, merci de nous faire confiance. On aime jaser d'actualité avec vous. On aime analyser la politique. On sent que c'est réciproque. Vous aimez nous entendre. Alors, franchement, un très, 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 très grand merci de nous faire confiance. D'ailleurs, 418-971-1021. Je fais comme hier, je prends une présence avec une petite question facile. Vous répondez par oui ou non. Est-ce que la CAQ est brûlée, même avec un nouveau chef dans la région de Québec? Donc, est-ce que vous allez... Il y a des chances que vous votiez pour la CAQ avec un nouveau chef. Vous répondez oui. S'il n'y a pas de chance, vous répondez non. Je veux voir à quel point la CAQ s'est brûlée avec son histoire de troisième lien qui font pas dans la région de Québec et avec un bilan, on ne se le cachera pas, très mitigé dans la région de Québec. On en a parlé d'ailleurs hier avec Claude Villeneuve. Ça se retrouve sur le blvd.fm. Tous nos meilleurs moments se retrouvent là. Et également, c'est une belle façon de nous écouter avec la web radio. L'application Boulevard, App Store, Google Play Store, Boulevard 102.1, meilleure façon de nous écouter partout où vous allez. Je donne mon exemple. M'en vais à la Pocatière en tournoi de hockey, moi, en fin de semaine. Ben, je vais l'écouter comment, Boulevard, vous pensez? Avec l'application que j'ai sur mon téléphone.
Pis ça se fait, c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Puis en plus, sur l'application, vous avez tous nos meilleurs segments disponibles.
Twitch.tv/BLVD/FM. J'en parlais avec Yannick Marceau ce matin. Le matin, on n'a quasiment pas de monde sur Twitch. Pourquoi? Parce qu'on est trois poilus.
Ils veulent pas vous voir.
Exactement. Mais dès qu'il y a une voix féminine qui arrive en onde, oh là, les gens se lancent
sur Twitch. Ça devient plus intéressant.
Ben, ça tombe bien, Anthony Niacarini est là présentement. Donc, vous pouvez aller sur Twitch. Je suis tellement macho quand je suis.
Montre pas trop les attentes non plus. Là. Moi, j'ai dormi 4 heures. Ouais, là, fait que je me suis pas arrangé pour vous autres. Vous pouvez venir voir de quoi j'ai l'air, si vous voulez.
Également, allez vous abonner à notre page YouTube. Vous retrouvez nos podcasts, notamment, qui sont là, les grands événements de Denis Gravel. On est en train d'enregistrer une nouvelle série de podcasts dans la série hors-série. J'en ai enregistré deux. Abonnez-vous à la page YouTube. Honnêtement, c'est deux podcasts que j'ai adoré faire. Un avec Josh Chinoski, qui a été battu pendant des années par le pasteur Claude Guillot. Donc, c'est une histoire épouvantable. C'est à vous dresser le poil sur les bras. Alors, ça sera diffusé au mois de février. Et également, qui sera diffusé le 2 février prochain dans la semaine de prévention du suicide. J'ai jasé avec Éric Légaré, qui est le porte-parole pour l'Association du suicide du Québec, mais surtout mon cousin. Puis on a jasé de nos histoires de suicide. On s'est mis à cœur ouvert avec vous. Donc, Laurence, à la promo, qui enregistrait le podcast, elle dit « Ouais, les boys... vous êtes venu me chercher au plus profond de mes émotions. » Il y a des beaux petits moments émotifs dans ce podcast. Alors, allez vous abonner tout de suite à la page YouTube, puis vous allez pouvoir écouter ça en février sans problème. Mathias Turcotte, je te salue.
Yes.
Et t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe parce que t'es allé courir après les ministres. Si les ministres de la CAQ ne veulent pas nous parler, nous autres, on envoie Mathias, puis il va, c'est la police ICE de Boulevard 102.
Je sais pas, était pas, c'est un titre que ça me tente d'avoir.
Non, ouais, non, Mathias.
OK, c'est la seule fois que je dis ça.
Ah oui, non, il y avait une conférence de presse ce matin pour présenter la vision Ville-Port, donc une vision d'une collaboration entre la Ville de Québec et le Port de Québec sur une dizaine d'années. Ce que ça annonçait ce matin, c'était concrètement pas grand-chose, je vais être honnête avec vous autres. C'est plus une collaboration entre les deux pour réaliser des projets, puis continuer l'effervescence, puis de se faire connaître mondialement. On avait notamment le Réseau mondial des villes portuaires qui était présent, et Québec va devenir une antenne au sein de ce réseau-là. Donc, il va avoir une représentante et tout. Donc, ça fait quand même de la belle visibilité mondiale pour la ville de Québec. Mais concrètement, il n'y a pas eu de grosses annonces. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est à retenir surtout, le ministre Simard, Jean-François Simard, ministre responsable de la Capitale-Nationale, était présent et bien sûr a participé à la conférence.
Vas-tu lancer?
Et Bernard Drainville aussi. Ben là, c'est ça. Jean-François Simard, parce qu'il y a beaucoup de noms qui reviennent depuis hier.
Ben
Bernard
oui.
Drainville, Christine Fréchette.
Geneviève Simon, exact. Jolin Barrette. Hey, là, il y a des gens qui nous disent « Jolin Barrette ira pas, sa blonde veut pas. Ah là, les potins, c'est le fun. »
Puis là, Jean-François Simard s'est fait demander aujourd'hui « Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il se lance? » Puis je vais vous sortir l'extrait tout à l'heure, là. Mais à ma grande surprise, il n'a pas fermé la porte. Il n'a pas nécessairement ouverte, mais il a dit qu'il était en train d'y réfléchir. Il a même dit que, bon, il y a certains de nos amis, de nos proches qui nous en parlent, puis c'est sûr, ça pousse à la réflexion.
Donc, Antonine, je te pose la question. Il y a toujours des outsiders, là, même, qui arrivent. Il y a eu un Marc Bélanger puis un Mario Roy dans la course au PLQ, là.
Oui, effectivement. Puis une course à la chefferie, même si... tu t'embarques dans la course et t'as pas de garantie, même des fois pas de chance de gagner, ben c'est quand même une occasion de se faire connaître, de se positionner. Puis des fois, ces gens-là ne terminent pas la course, ils décident de se lancer, mais deviennent un appui plus important qu'un autre député,
c'est
par exemple.
C'est vrai! T'as entièrement raison!
Mais en ce moment, premièrement, tu sais, je veux dire, M. Legault a démissionné hier.
Oui.
Fait que, tu sais, le corps n'est pas encore refroidi. Donc, c'est sûr que ce serait peut-être prématuré de fermer des portes. Mais en même temps, tu je pense qu'il y a un peu de « j'aime ça que mon nom circule », puis j'aimerais ça faire partie du petit tableau, là, quand vous parlez des candidats potentiels. Tu sais, il y a des gens qui font circuler leur nom exprès, là, tu sais.
Pour
hier,
avoir plus de notoriété.
Moi, j'aime ça. Oui, mais moi, j'aime ça des courses à 5-6, là. Ça brasse des idées nouvelles. C'est le fun.
Ouais, c'est juste que là, en tout cas, on en reparle tantôt, là, mais si on se fie aux rumeurs, ça va être une course à 12, là.
Puis, rapidement, parce que tu vas nous présenter des extraits tantôt, puis je veux pas qu'on brûle toutes les punches. Ouais. Bernard Drainville, j'imagine, n'a pas fermé la porte non plus.
Il a pas fermé la porte, il a pas ouvert sa 8 ans. T'es pas temps de répondre aux questions des journalistes, pour vrai, aujourd'hui. Là. Il a fallu convaincre pendant 2-3 minutes avant qu'il accepte de faire le scrum. Puis,
il soupirait beaucoup,
ben,
j'imagine.
Ouais, puis c'était pas des grosses réponses. Il a pas trop eu le choix, en fait, parce qu'il s'est ramassé avec une quinzaine de micros autour de lui. Fait que dans ce temps-là, ben... tu réponds
t'as
aux questions.
Non, c'est
ça. Et ça, là, ça illustre très bien le défi dans les prochaines semaines. Tu peux pas faire une annonce sur autre chose. Je voyais aussi dans le fil de presse, il y a une conférence de presse de Christine Fréchette cet après-midi. Voyons, c'est sûr, toutes les questions vont porter sa course à la
c'est
direction.
Clair. Surtout que Gilles Bélanger lui a déjà donné son appui.
Ouais. On en reparle.
Ouais, le cadavre est même pas froidi, comme tu dis. Jusqu'à présent, vous êtes 95% des auditeurs de Boulevard à nous dire « Fini la CAQ, ça va être le PQ, le Parti libéral ou le PCQ. C'est terminé la CAQ pour nous. » Donc, continuez à nous écrire au 418-971-1021. On passe au caucus.
Le caucus.
Boulevard.
Le caucus.
102-1.
Voici Antonin Iaccarini.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. Votre moment préféré du show, je dirais, parce qu'il y avait tellement de monde hier sur le streaming, du lundi au jeudi, de midi à 12h30. Puis ils ont bien raison que c'est le moment préféré du show, parce qu'en tout, tu fais une méchante bonne job. Merci d'être avec nous.
Ben, merci à vous autres. Puis c'est vrai que c'est un moment bien, bien particulier en politique quand même. Là, ça n'arrive pas à tous les jours.
Non.
Là, je dis ça n'arrive pas à tous les jours. En ce moment, il y en a souvent des bombes politiques. Mais la démission d'un premier ministre en fonction...
Ben, on remonte à 2001 avec Lucien Bouchard.
Ben, c'est ça. Là, je sais qu'il y en a eu une l'an passé au fédéral, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que les affaires de l'État, c'est sûr qu'au fédéral, ça nous touche moins dans notre quotidien. Alors que là, on est au Québec, l'État gère beaucoup de choses qui nous touchent vraiment à tous les jours, chacun d'entre nous. Ça va être spécial dans les prochaines semaines. Il faut que les gens soient conscients. On n'est pas dans une période normale. C'est pour ça que le premier ministre a décidé de rester aussi. C'est qu'il y a quand même pas mal d'affaires à gérer malgré tout.
Mm-hmm.
Même si on se dit il y a quelques instants, à chaque fois que les ministres vont vouloir sortir sur quelque chose, ils vont se faire parler de la course à la chefferie. Il faut quand même continuer de gérer le gouvernement. Là.
Oui, et pour une course à la chefferie avec un premier ministre qui démissionne, il faut remonter à 1985, alors que Pierre-Marc Johnson avait battu Pauline Marois et Jean Garon pour prendre le poste de premier ministre à la place de René Lévesque. Et il a mangé une méchante volée deux mois plus tard par le Parti libéral.
Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec la situation qui va arriver maintenant.
Ben oui.
Parce que pourquoi ça se bat au portillon en ce moment, puis qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se présenter pour la course, c'est parce que tu vas devenir premier ministre.
Exactement.
Même si c'est pour 7 mois, là, mettons, ou 6 mois, ou quand on verra les règles de la course à la chefferie, tu vas avoir ta photo pareil dans la liste.
Oui,
hein?
comme Pierre-Marc Johnson, même si ça a duré deux mois et quelques jours.
Ça a duré deux mois, il se fait huer dans les conseils nationaux du PQ, mais il y a eu une méchante belle carrière après, ça, je peux t'en passer à papier.
Exactement. Les autres, c'était la démission de Jacques Parizeau, fracassante après le référendum de 95. Ça a été un couronnement de Lucien Bouchard qui a gagné ses élections suivantes contre Jean Charest, mais avec un parti libéral qui avait eu plus de votes au pourcentage que le PQ.
Oui, ça, des fois, c'est les distorsions de notre système démocratique.
Et par la suite, Lucien Bouchard démissionné en 2001, couronnement de Bernard Landry, puis lui aussi, deux ans plus tard, il s'est fait sacrer une volée par Jean Charest.
Il y a un super bon documentaire qui s'appelle « À hauteur d'homme », qui n'est pas facile à trouver, mais qui est très bon si vous voulez un bon documentaire politique québécois.
Ah, ben oui, je vais aller écouter ça certainement. Et tout ça pour dire qu'on va parler avec Louise Arel tout à l'heure à la fin de l'émission. Louise Arel, qui est une ancienne ministre, notamment des Affaires municipales. Elle a été chef aussi par intérim du
PQ. Après le départ de M. Landry.
Et on veut revenir sur 2001, la démission de Lucien Bouchard. On veut voir dans les coulisses comment ça se trame. Parce que là, c'est sûr, t'sais, on ne sait pas trop comment ça se trame dans les coulisses de la CAQ. Puis c'est bien normal. Là. Mais des fois, l'histoire se répète quand il arrive quelque chose,
un événement particulier comme ça. D'avoir la perspective de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Moi, quand j'étais jeune attachée de presse, j'avais eu une formation par une ancienne attachée de presse, Christiane Miville-Deschenes, qui était l'attachée de presse de Lucien Bouchard.
Oh,
et elle m'avait raconté un peu de l'intérieur, comment ça s'était passé, cette journée de démission de Lucien Bouchard. Et c'est des journées vraiment spéciales. Puis, tu sais, hier, on était en onde en émission spéciale, puis moi, j'avais vraiment une pensée pour le staff. Mm-hmm. Puis les élus aussi autour, mais c'est des journées vraiment bizarres. Oui. Là. Imaginez l'ambiance dans les heures précédant la conférence de presse, quand tout le monde sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est des moments historiques, mais c'est des moments aussi très humains et émotifs.
D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier, je vais te le dire, parce que j'ai énormément de respect pour tout le monde qui travaille en politique. Autant les politiciens que le staff. Puis peut-être encore plus le staff, parce que Colin, tu le sais, tu l'as fait, je ne l'ai pas fait, moi. Mais vous dépensez tellement d'heures sans être jamais à l'avant-plan.
T'as jamais la gloire, là.
T'as jamais la gloire, non. Mais t'es toujours là. J'ai écrit à Christine Hamel, l'attachée de presse de...
Catherine,
je m'excuse. L'attachée de presse de François Legault hier pour lui dire « Hey, je pense à toi, je pense à toute l'équipe. Lâchez pas, je sais que c'est une journée difficile pour vous, mais continuez votre excellent travail. » Hey, elle m'a répondu tout de suite en disant « Hey, wow, merci, t'es donc bien gentil. » Mais c'est vrai, c'est vous êtes des gens, puis je dis vous parce que tu en as fait partie. Vous êtes des bibites politiques, vous êtes des gens qui comptaient pas vos heures, qui donnaient du temps, puis toujours du temps dans le but que la société aille mieux. T'sais, c'est pas vrai, il n'y a pas un politicien, puis il n'y a pas personne en politique qui fait une job pour dire hey, « je veux que la société mange la colle ».
Non, il y a des gens qui vont en politique parce qu'ils sont assoiffés de pouvoir. Ça peut arriver.
Ça, c'est vrai. Donald Trump, oh, excuse.
Ouais, c'est ça. Ça arrive, OK? Mais c'est pas la majorité, et surtout pas dans les employés politique. Parce
ben
que, je veux dire, l'aspect un peu plus mégalo, narcissique, je veux dire, t'es pas dans la lumière. Fait que c'est pas ça qui motive l'engagement politique de ces personnes-là. Et tout particulièrement, honnêtement, je prêche pour ma paroisse, mais le staff de communication. Mm-hmm. T'es pris entre les journalistes et les élus, OK? Tu te fais engueuler des fois. Tu te fais engueuler par ton ministre quand l'article est pas bon. Tu te fais engueuler par le journaliste quand ton ministre répond pas. C'est pas une job qui est facile. Mm-hmm. Et quand vient le temps de dire bravo quand quelque chose va bien, là, c'est jamais les communications. Mais quand ça va mal, par exemple.
Ben oui.
Ah, c'est parce qu'on a mal communiqué. C'est la faute des coms.
Tu dis, toi, moi, j'ai travaillé au RTC dans le département des communications. Je suis au service à la clientèle, je gérais les plaintes. Et boboy, on avait rarement des félicitations, mais quand il y avait de quoi qui sortait, là, hey, ma gang de pas bon communication, oui. Allez-vous régler ça?
Ben quand c'est bon, c'est les porte-paroles, c'est les boss.
Ben
t'sais.
Oui.
Mais
ben
quand
oui,
c'est pas
ben
bon,
oui.
C'est les coms.
Ah,
fait
c'est
que
comme,
une
non,
pensée
non.
Pour le staff de com, effectivement, puis bravo d'avoir envoyé un petit mot à l'attaché de presse.
Une pensée à tous les attachés de presse que j'ai harcelé hier pour avoir des entrevues. J'ai pas réussi, mais au moins, moi, je suis le genre de gars qui répond toujours hey, merci beaucoup de m'avoir répondu, je comprends, on se reprend. J'aime pas, je veux pas être bitch avec ces gens-là, puis je veux pas être
avoir
dur.
De l'empathie, là. C'est bon tout le temps.
Ben
okay?
Non, mais
tu veux ton entrevue, mais tu comprends aussi que c'est peut-être pas une journée facile, puis que peut-être que le téléphone sonne beaucoup, puis que ça devait être une grosse journée.
Ça.
Fait que c'est le fun d'avoir un peu d'humanité.
Ouais, tu sais, j'ai texté deux fois l'attaché de presse de Simon Jolin Barrette hier en me disant il n'y a pas grand-chance que Jolin en entrevue. Il m'a répondu un matin en me disant ça sera pas possible. J'étais juste content qu'il me réponde. J'ai dit oh, au moins j'existe encore.
Un gars s'essaye. Puis parlant de côté plus humain, je voulais revenir avec toi sur un peu le processus qui a mené à la décision de M. Legault, parce qu'on a appris un peu plus de détails, évidemment, dans les heures suivantes. On a été un peu pris de court, il faut le dire, là, parce qu'on se doutait que ça allait arriver. Mais on n'avait pas, on l'a pas préparé. On est rentré en onde à chaud. On avait beaucoup de questions puis pas de réponses. Donc, on en sait un petit peu plus. Il semblerait que la réflexion de M. Legault avait commencé dès l'été passé, mais c'est une réflexion en continu. Moi, je pense que la réflexion a eu lieu aussi quand le parti a décidé de préparer des règles de course à la chefferie dont on avait parlé il y a quelques temps ensemble.
Par contre, c'est les bonnes périodes, l'été, la période des fêtes,
et voilà,
pour prendre cette sorte de décision-là. Et pas juste pour un premier ministre. N'importe qui a un job,
ben oui,
à l'été, pour le temps des fêtes, on s'en pose toujours la question.
On réfléchit.
Moi, je suis heureux, c'est-tu la job que je veux faire? T'sais, on fait toujours. Là.
C'est ça. Stop ou encore, comme dirait l'autre chanteur. Donc, il y a une réflexion qui s'est faite cet été. Les proches conseillers de M. Legault, ils ont un peu passé le message en disant, ben là, ce serait le temps de se décider. Là. On arrête ou on continue. Et il a décidé de donner un dernier coup. Donc, je donne le tout pour le tout pendant l'automne. Puis c'est là qu'on a vu là, le gros brassage, le remaniement ministériel, la nouvelle vision économique, les priorités, un paquet de projets de loi, etc. Donc, le but, c'était un peu de se mettre « all-in », comme on dit, au poker, et d'essayer de faire bouger l'aiguille et de voir si c'était possible de se sortir la tête de l'eau. Et le premier ministre est arrivé à l'évidence, ça ne bougeait pas. Dans sa tournée d'entrevue qu'il a fait avant Noël, dans laquelle il disait « je reste », il le croyait encore. Mais je pense que ça prenait la période des fêtes, comme tu dis, pour avoir à la tête reposée, discussion avec ses proches, etc. Puis aussi, tu sais, dans le quotidien, quand tu es entouré de tes employés, bien, c'est tes employés. Fait que, oui, ils te donnent... Il y en a dans ça qui vont être des gens qui vont dire ben, « t'es bon tout le temps, puis t'as raison », mais il y en a toujours qui sont très honnêtes, avec lesquels t'as une relation franche et directe, mais il y a un attachement tellement émotif qu'à un moment donné, c'est le fun aussi d'avoir des discussions avec des gens qui n'ont pas le nez dedans puis qui ne sont pas dans le bureau avec toi au quotidien. T'sais.
C'est tellement bon ce que tu dis. J'invite les gens à les réécouter si vous ne l'avez pas entendu hier à notre émission sur blvd.fm. Étienne-Alexandre Beauregard, ce jeune garçon qui a 21 ans, écrivait les discours pour François Legault. La première question que je lui ai posée, c'est ça. Quel être humain est François Legault? Il a dit, c'est tellement un bon monsieur.
C'est une bonne personne.
C'est tellement un bon père de famille. J'ai tellement appris aux côtés de lui. Il a été hyper pédagogue avec moi. Donc, c'est dur quand ça fait 8 ans, 12 ans que tu es avec François Legault.
Les gens ont de la peine pour lui. Là,
ben oui,
moment,
de
là.
Lui dire « Hey, faut que vous quittiez, M. Legault. Vous avez créé la CAQ. »
On vous doit tout.
On vous
nos
doit
jobs,
tout.
Les élus qui se sont fait élire, c'est grâce à M.
Ben
Legault.
Oui.
Mais là, ça serait le temps de partir.
Parce
M.
que
M.
c'est
Legault,
dur. T'sais. Pourquoi? Parce que tu l'as dit d'entrée de jeu, il y en a qui vont faire de la politique et pas beaucoup, mais il y en a qui vont le faire pour le pouvoir. Ça, c'est facile de dire, sac ton camp, ça fait 3 ans que tu me fais
chier.
Ça fait 3 ans que tu me fais chier, sac ton camp. Mais quelqu'un que ça fait 10, 12 ans que tu es en relation avec et que tu aimes profondément parce que c'est une bonne personne.
Et pour laquelle tu as un grand respect. M. Legault est en politique depuis 28 ans. Pour qui tu te prends, toi, jeune conseiller, que ça fait 4 ans que tu fais ça? Tu comprends?
Ben,
à un moment donné, il y a comme quelque chose de difficile. Donc,
puis je
pousse-tu
ma comparaison trop loin si je te dis les employés qui sont avec lui depuis le début de la CAQ, là, c'est un peu comme quand tu es en relation de couple.
Ben oui.
T'as des enfants, puis là, tu dis ouais, il faudrait que je mette fin à ça. Et t'offre en tabarouette.
C'est
là.
Vraiment extrêmement difficile comme décision. Puis c'est sûr, quand on fait des vox pop, puis le monde, c'est le temps qu'il s'en aille. Nous aussi, on disait ça, là. Mais une fois qu'on se met dans ses shorts à lui et dans les souliers des gens qui l'entourent, c'est vraiment pas évident. Donc, le temps des fêtes, M. Legault a pris le temps, avec son épouse Isabelle, ses fils, de vraiment sous-peser là, cette situation-là. Et la conclusion de cette discussion-là a été que c'était la fin pour M. Legault. Et quand il est revenu là, de ses vacances, ben, il a commencé à écrire lui-même son allocution de démission. D'habitude, c'est Stéphane Gobeil qui écrit ses allocutions. Ben, là, c'est une allocution que tu écris toi-même, surtout qu'il n'a pas mis tout de suite dans le coup ses proches collaborateurs. Il a commencé lui-même son processus et par la suite a averti là, sa garde rapprochée autour du début de la semaine, autour de lundi. Moi, j'ai des gens qui me disent que, par exemple, il y avait des dossiers en suivi avec le cabinet du premier ministre, puis lundi matin, c'était « business as usual », c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui laissait sous-entendre. Il n'y a personne qui disait « ouais, je te reviens, mais tu laisse-moi quelques jours ». Il n'y avait rien de ça. Donc, ça, d'après moi, ça devait être en fin de journée lundi que les choses se sont clarifiées. Et bon, la vie aux médias est sortie hier et on s'est tous douté que c'était ça. Je pense que le sondage Palace Data, qui mettait la CAQ à 11%, a confirmé que M. Legault avait pris la bonne décision. C'était le temps qu'il parte, qu'il ferme ce chapitre-là. Mais ça va nous amener vers les prochains mois. Parce que M. Legault reste premier ministre.
Bien, justement, je le rappelle, vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini. C'est du lundi au jeudi de midi à 12h30. C'est qui les candidats potentiels?
Bon, écoute, ça se bouscule au portillon pour devenir chef de la CAQ. Ça se bouscule au portillon pour devenir premier ministre. On va se le dire, il y a ça qui est alléchant parce que les défis sont grands pour la formation politique. Ça serait étonnant, ce serait un coup de maître de réussir à faire élire la CAQ en 2026 à l'élection en octobre prochain. Mais on le sait, rien n'est impossible. Depuis qu'on a vu Mike Carney l'année passée, on se garde une gêne. Mais c'est très alléchant, l'idée de devenir premier ministre, même pour quelques mois. Et de toute façon, même pour ce qui est de la CAQ et de sa survie, la CAQ est à zéro dans les projections de sièges.
Tu peux juste faire mieux.
Écoute, tu peux pas faire pire, là, à moins qu'on se mette à être dans le négatif. Là, je veux dire, tu ne peux qu'avoir amélioré le sort. Là. Ça dépend, ça va être de la gestion d'attente là, pour ce nouveau chef, cette nouvelle chef. Donc, évidemment, hier, toi puis moi, à chaud, on a parlé de deux candidats potentiels, Geneviève Guilbeault, Simon-Jolin Barrette. Denis avait apporté le nom de Bernard Drainville. Donc, je commence avec Geneviève Guilbeault. C'est une communicatrice qui est redoutable, très efficace, mais du côté des faiblesses, elle est en quelque sorte plus brûlée que certains autres de ses collègues à cause du troisième lien, à cause de sa clique.
Ouais, puis d'ailleurs, excellent article de Nicolas Lachance aujourd'hui qui mentionne que Geneviève Guilbeault a reçu justement l'information qu'elle serait blâmée dans le rapport Galant. Et on va avoir Nicolas avec nous immédiatement après le caucus.
Donc, Geneviève Guilbeault, ça va être un jeu complexe pour elle de naviguer à travers tout ça parce que elle ne peut pas complètement se dissocier du bilan de François Legault, évidemment. Elle a été une des joueuses majeures, mais elle va essayer. Donc là, déjà, on peut voir se dessiner à l'horizon que ça va jouer dur dans les prochaines semaines. Parce que Geneviève Guilbeault pourrait dire « on m'a obligée, c'était pas moi ». Elle pourrait commencer à lancer des gens en dessous de l'autobus. Il y a quelqu'un qui l'a lancé en dessous de l'autobus, visiblement, déjà. Donc, c'est déjà commencé. Elle est très active. Beaucoup d'appels qui ont été faits dans les derniers jours, des invitations à prendre des cafés, etc. Elle est en train de soupeser qui pourrait l'appuyer, etc. Donc, on surveille Geneviève Guilbeault, évidemment. Simon-Jolin Barrette, c'était ton poulain?
Oui, ça l'est encore.
Et ça l'est toujours. Par contre, ça semble plus compliqué pour lui de penser qu'il pourrait se lancer. Il semblerait qu'il y ait des hésitations. Il est toujours en réflexion. Du côté des forces pour Simon-Jolin Barrette, on en a parlé hier, mais c'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses. Comme ministre de la Justice, comme ministre de l'Immigration aussi auparavant, c'était le leader parlementaire de la CAQ. C'est un poids lourd et il avait l'air d'être un peu le successeur naturel de M. Legault. Par contre, du côté des faiblesses, pas une grande chaleur humaine.
Non, en effet.
Quand on parle de charisme, disons qu'il est un peu plus froid. Il y a même certaines personnes qui le trouvent baveux, arrogant.
Ouais, un peu trop pragmatique aussi pour passer auprès de la population générale.
Peut-être, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement cohérent et on sent très bien pourquoi il est en politique. J'ai plus de difficultés avec Geneviève Guilbeault sur cet aspect-là.
Petite parenthèse, David qui nous écrit, est-ce que le souvenir expérientiel va lui revenir dans le cas de Geneviève Guilbeault?
Ah oui, d'accord.
Tu tiens dans la commission Galant. Oui. Je n'ai pas le souvenir expérientiel que...
Oh mon Dieu, c'est une des bonnes citations.
Ça fait PSP, pas, hein?
Un petit peu, oui. Un petit peu. OK, prochain candidat, c'est Bernard Drainville. C'était le nom que Denis nous avait lancé hier. Il y pense. Moi, j'avais entendu dire qu'il n'irait pas, mais finalement, ça y tente aussi. Là. Fait qu'il pense à ça. Du côté des qualités, des forces pour Bernard Drainville, moi, je pense que l'authenticité et la chaleur humaine, on l'a plus là, du côté de Bernard Drainville. C'est un peu un style comme François Legault, hein, quand on y pense, qui parle de manière bien naturelle, très accessible, et il entretient des bonnes relations humaines à l'interne.
Oui, puis je pense qu'il est reconnu pour ça, puis même un peu trop par moment, justement, certaines citations qui sortent
comme
de
François
lui.
Comme François Legault,
exact,
hein?
Exact, c'est la même chose. Jeff, je t'ai sorti une cote de Bernard Drainville, justement. Il s'est fait demander tout à l'heure, c'était comme ça qu'il ressort, parce que comme j'ai dit, il était vraiment...
Ça y tentait pas.
Ouais, ça y tentait pas aujourd'hui. Il s'est fait demander si le prochain chef de la CAQ devait avoir un portefeuille économique, devait être bon en économie. Puis vous allez voir dans sa réponse, il n'a pas voulu répondre, mais pour une raison précise.
Écoutez, je veux pas répondre à cette question-là parce que ça m'engage justement à une discussion sur la suite. Et puis j'ai pas encore statué sur la suite. Donc, je suis pas encore en mesure de répondre à cette question-là.
C'est pas un...
Puis c'était un peu ça qui revenait tout au long du point de presse, vraiment. Puis ça revenait, c'était un peu ça, cette phrase-là de « je n'ai pas encore statué, je sais pas encore, ouais. j'ai pas encore décidé, je suis pas rendu là », il l'a dit à plusieurs reprises.
Mais c'est une bonne
aussi.
Ligne en passant, Mathias, parce que quand tu te fais poser la question, c'est vraiment une question piège. Parce que si tu fermes la porte, c'est « ferme la porte »,
c'est fini.
Ça devient une nouvelle. Puis si tu dis « je sais pas encore », ben il ne ferme pas la porte, il y songe et puis là on spécule et tout ça. Donc sa ligne aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'est je suis pas rendu là.
Exact.
Donc c'est pas j'y pense, c'est pas je ferme la porte, c'est je suis pas rendu là.
Anto, ça me fait penser est-ce que le premier qui va se lancer, on va attendre que de connaître les paramètres de la course avant quelqu'un se lance, parce que sinon ça serait mal vu en crime.
Oui puis non, parce que si tu te lances avant de connaître les règles, ça démontre une confiance et une solidité à tout rompre. Okay?
Parfait. Fait que là, si c'est pas l'homme blanc que tu nous as raconté hier, puis t'es Christine Fréchette qui se lance, ça veut dire que t'as confiance en ta barouette.
Exactement. Puis moi, j'avais entendu qu'il y avait une envie de se lancer dès cette semaine, mais qu'on se serait dit, bon, peut-être qu'on veut pas être les premiers. Fait qu'on va voir. Mais on ferait présentement du côté de Christine Fréchette. On va passer à.
Oui, parce
à
que là, je t'ai parlé de Christine Fréchette parce que hier soir, tu m'as texté pour me dire,
ouais.
Jeff. Christine Fréchette.
Ouais.
Ce matin, Marc-André Lotler, sur les ondes de Marceau le matin, a dit « Les gars, c'est Christine Fréchette la favorite. »
Oui.
Pourquoi?
Bon, Christine Fréchette, premièrement, elle est moins connue du grand public. C'est probablement sa faiblesse,
oui.
là, entre guillemets. C'est une faiblesse parce que hier, son nom n'est pas venu spontanément hein, quand on en a parlé. Donc, voit le problème que ça peut créer. Puis, en course à la chefferie, très, très vite, là, quand il va y avoir un premier sondage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dégage là, pour montrer qu'il est sérieux puis qu'il peut l'emporter. Donc, c'est une course avant la course. Ça. Cette course à montrer, à faire le plein d'appui, à montrer qu'on est solide, à montrer qu'on ramasse beaucoup de dons. Tout ça, ça va très vite. Christine Fréchette, bon, premièrement, elle a repris le dossier Économie-Énergie qui est un gigantesque dossier qui appartenait à qui? À Pierre Fitzgibbon, qui était pratiquement le numéro 2 du gouvernement. On peut parler de vice-première ministre puis de ministre des Finances, mais c'était Pierre Fitzgibbon.
Puis on s'entend, Fitzgibbon n'avait pas laissé la maison en ordre, puis elle a fait un excellent travail de ménagère.
Elle a un tableau sans faute. Nommez-moi une gaffe qu'elle a faite.
Zéro.
Un scandale qui la suit.
Zéro.
Puis... Elle sortait d'un poste qu'il y en a eu en masse, avec Fitzgibbon, on en a eu des scandales. Oh, oui. Oh,
donc, oui. Elle a fait un travail impeccable. Elle avait, au début du mandat, le dossier épineux de l'immigration. Elle a réussi à naviguer à travers ça sans... parce qu'en passant, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde en immigration, c'est impossible. Surtout à la CAQ, c'est plus polarisant un peu. Puis elle a réussi à naviguer à travers ça, à faire un sans-faute. Moi, ce qui s'intéresse beaucoup au dossier de l'immigration, j'ai travaillé à l'immigration, mais qui vient d'une famille de personnes immigrantes.
Ben oui.
Moi, le ton et la manière dont c'est géré, pour moi, c'est hyper important. J'ai été souvent fâchée par des propos de François Legault, de Simon-Jean Lebarrette ou de Jean-François Roberge. Jamais Christine Fréchette a dit un mot de travers. Elle est vraiment très, très habile. Et quand elle a récupéré le dossier de l'économie et de l'énergie, elle a continué de la même manière à travailler de façon très, très rigoureuse. Son défaut, c'est qu'elle est méconnue du public, mais elle est aussi méconnue, point. Dans le sens qu'on ne sait pas trop comment... Moi, j'essaie d'imaginer le genre de course à la direction qu'elle va faire, puis c'est un petit peu moins clair pour moi. Donc, on va continuer de surveiller ça, mais il y a déjà un appui. Gilles Bélanger, qui est ministre actuellement de cybersécurité et du numérique, c'est pas un grand ténor de la CAQ, mais quand même, déjà, deuxième journée, on a un appui. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, que je voyais aussi, moi, dans la course à la direction, a quand même pas mal fermé la porte hier, on va voir. Mais lui, il a vanté les qualités de Christine Fréchette. Il ne l'a pas appuyé encore officiellement. Donc, est-ce qu'on va vouloir donner un grand coup éventuellement, là, puis arriver, faire une annonce entourée de plein de ministres et de députés, peut-être de militants ou de personnalités de la CAQ? Moi, je m'attends à ça dans les prochains jours.
Rapidement, en terminant, j'ai deux questions pour toi. Premièrement, est-ce qu'il va y avoir un candidat de l'externe? Et deuxièmement, ça va-tu se tirer dans la boîte? Parce que j'ai l'impression que la CAQ a besoin d'une course sale pour revivre.
Personne. En fait, tout le monde va dire qu'il ne lancera pas de boîte. Mais regardez ce qui se passe avec l'article ce matin sur sa clique. T'sais, ça va être un peu difficile, évidemment, comme course à la direction. Oui, il pourrait avoir un candidat de l'extérieur. Moi, je ne l'exclus pas encore, mais là, demandez-moi pas qui, je ne le sais pas. Olivier Primeau, qui a laissé un peu circuler son nom, je pense pas que ça va arriver. Guy Cormier a fermé la porte à la politique cette semaine. Je pense pas que ça va arriver. Mario Dumont a fermé la porte. Mais qui sait? Mm-hmm. Hey, c'est une porte d'entrée pour le poste de premier ministre du Québec. Quand
Luc
même,
Poirier n'a pas répondu à ma demande d'entrevue.
Bon.
J'aurais aimé ça y jaser. Bon. Le milliardaire!
Le milliardaire. Donc, c'est possible.
Il était là, déçu de ne pas pouvoir aller au salon de l'auto de Montréal. Il écrit ça sur ses médias sociaux parce qu'il ne peut pas montrer ses 43 Ferrari puis Porsche.
Faudrait que le salon de l'auto se déroule chez eux.
Ouais, ça c'est ça. Plus simple. Peut-être qu'il ne sait pas vraiment c'est quoi le pouvoir d'achat puis les familles qui ont des besoins.
Ben, vous avez juste à écouter la télé-réalité. je ne me rappelle pas comment ça s'appelle.
Son documentaire, tu parles.
Il y a le documentaire, mais aussi la série. Il y a comme un reality show sur les femmes des femmes riches. Là, en tout cas, bref. Moi, j'écoute tellement pas la télé que je ne peux pas vous en parler plus qu'il faut, mais j'ai vu un bout d'épisode, puis Luc Poirier offrait un diamant gros comme à peu près la tête de ton micro à sa femme. Je termine rapidement, ouais. Jeff, juste pour te dire qu'on surveille les règles de la course à la chefferie. Puis quand même, juste nous mettre un petit quelque chose sur le radar, ça va être compliqué. Le premier ministre reste. On a des gens qui vont vouloir se dégager de son bilan. On pense à Geneviève Guilbeault notamment. Mais il va y avoir des périodes de questions. Là, c'est le PM qui va se lever. Il va y avoir des mails de presse. Qui va répondre? Il va y avoir des sujets d'actualité qu'on n'a pas vu venir. Qu'est-ce que le PM va dire? Est-ce que c'est différent de ce que les candidats à la chefferie vont répondre s'il y a une crise puis qu'il faut se positionner
rapidement?
Parce que
t'as pas le choix de te détacher du bilan de François Legault si tu vas essayer de passer dans l'électorat. Là.
Mais ça va créer vraiment des situations fort étranges. On surveille ça. Rapport Galland aussi qui va sortir éventuellement.
Le 13 février, que le gouvernement n'aura pas le choix de rendre public très rapidement également. Alors, non, on s'en va vers des mois politiques très, 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 très intéressants. Si on a pensé que 2025 en tôt, avec la démission de Justin Trudeau, les élections fédérales, Trump. Les élections municipales, Trump a été une grosse année politique.
On
n'a
rien
là,
vu.
Ça va brasser au provincial. Et faites-moi plaisir, là. Une vraie course, là. T'sais, faites-moi pas une course à la partie libérale où tout le monde essayait de pas trop se faire mal. Là. Non, 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 non.
Mais rappelle-toi ce que je t'avais dit. À l'époque, sur les courses à la chefferie, quand tu as un meneur clair, les gens font attention parce que tu le sais que ça va être le chef, donc tu le préserves. Mais quand c'est pas clair, c'est qui le gagnant, là, ça fait des courses qui sont un petit peu plus sales, qui brassent un peu plus. On verra.
Ah oui, rentrez-vous dedans, s'il vous plaît. On fait une courte pause. Non, mais c'est vrai, la CAQ a besoin de ça. Faut que la CAQ revive. Et pour revivre, ils n'auront pas le choix que ça explose leur course à la chefferie. On fait une courte pause. Nicolas Lachance, excellent journaliste au niveau du Journal de Québec sur la colline parlementaire, a sorti un papier en disant « Savez-vous quoi? Geneviève Guilbeault, elle va être blâmée dans le rapport Galland. » Donc, on va parler de ceci avec lui parce que Geneviève Guilbeault est un nom qui circule énormément pour la course à la chefferie. Et on va aussi parler de Serge Lamontagne. Qui est cet homme? Ben oui, vous l'avez pas, vous l'avez pas capté hier. C'est le nouveau PDG de la SAAC. Comment ça, personne n'a vu ça passer hier? Que s'est-il passé hier dans la stratosphère politique pour qu'on oublie que Serge Lamontagne va maintenant gérer la SAAC et sa clique? On jase de ça avec Nicolas Lachance immédiatement après cette courte pause sur Boulevard 101 à l'émission On en jase.